Donc j'interviens aujourd'hui comme représentant de la Quadrature du Net. Il y a une collaboration qui s'est nouée entre la Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net et d'autres organisations à travers l'Observatoire des libertés et du numérique, l'ONL. Et on a eu l'occasion de se retrouver sur des questions comme la lutte contre certains abus de l'état d'urgence, la protection des données personnelles, la lutte contre les lois de surveillance, le chiffrement. Et tout ça a créé des synergies qui, pour nous, sont très importantes et, je pense, symboliquement, étaient très fortes. Donc aujourd'hui, je suis encore plus content d'intervenir sur cette thématique des communs. Et comme l'a dit Benjamin, je trouve que c'est très important que la Ligue des droits de l'homme s'empare de ce sujet. Alors j'avais prévu une présentation que j'ai très largement réécrite hier soir au vu des éléments du débat qui ont eu lieu, notamment le matin. Parce qu'on a bien senti, moi je vais vous parler des communs de la connaissance, et on a bien senti hier qu'il y avait eu l'expression de certaines réserves sur le fait de considérer la connaissance comme un commun, notamment vis-à-vis des questions de propriété intellectuelle et en particulier de droit d'auteur. Et j'aimerais vraiment frontalement aborder cette question ici, parce que je pense que c'est un vrai point peut-être de désaccord ou d'accord, et je pense qu'il y a des malentendus très forts sur ce sujet et sur les intentions de ceux qui défendent la connaissance comme bien commun. Alors pour commencer, je vais repartir d'Elinor Ostrom, parce que comme Benjamin, je pense que c'est vraiment le cœur du fondement théorique qui est le plus intéressant pour penser les communs. Et Elinor Ostrom, donc, comme Benjamin l'a dit, a consacré sa vie à l'étude de communs fonciers, essentiellement, donc qui sont des communs matériels ou des communs naturels, bien que j'aime pas ce mot parce que je pense qu'aucun commun n'est naturel en soi, mais des ressources naturelles en tout cas. Donc c'était des forêts, des alpages, des systèmes d'irrigation, des ressources halieutiques, etc. Mais à la fin de sa vie, elle dirige un ouvrage collectif avec une Américaine qui s'appelle Charlotte Hess, qui est bibliothécaire, et ça a son importance, qui s'appelle, en 2007, donc bien après son livre « Governing the Commons », son grand livre, qui s'appelle « Understanding Knowledge as a Commons », ça veut dire « concevoir la connaissance comme un commun ». Et dans ce livre, ce qu'elle fait, en fait, il y a une introduction qui est vraiment limpide à ce sujet, c'est qu'elle constate, en fait, qu'elle avait consacré ses premières études à des ressources qui étaient rivales. On a vu hier, c'est-à-dire une ressource, si je prends dans une ressource rivale, je vais priver quelqu'un d'autre de cette ressource. Si je prends un poisson dans une rivière, je prive tout le monde de l'accès à ce poisson. Mais elle constate, en fait, que les principes qu'elle a dégagés, notamment les fameux 8 principes de gestion efficace des communs, peuvent s'appliquer à des éléments qui ne sont pas rivaux, et notamment des ressources qui sont immatérielles, qui sont de l'ordre de l'information, de la connaissance, de la culture. Et dans ces domaines-là, on peut aussi faire ce qu'elle appelle des « commons pool resources », c'est-à-dire des pools de ressources partagées. Et le livre donne des exemples. Donc le livre, par exemple, cite les bibliothèques comme un exemple ancestral de commun, en fait. Et alors, en fait, c'est ce qu'on appelle un commun sous garantie publique. C'est aujourd'hui, chez nous, c'est l'État qui fait les bibliothèques. Mais à la base, c'est bien ça, l'idée de faire un droit collectif d'usage sur la culture, c'est ce que manifeste la bibliothèque. Elle cite aussi des nouveaux exemples de communs numériques, parce que le numérique a beaucoup joué dans sa changement de la vision des choses. Et elle cite notamment les logiciels libres. Elle cite aussi le mouvement qu'on appelle de l'open access, c'est-à-dire le libre accès aux publications scientifiques, par lequel les chercheurs se sont réappropriés la diffusion de leurs travaux qui étaient auparavant captés et parfois accaparés par des éditeurs privés. Et ils ont utilisé Internet pour mettre en commun leurs travaux scientifiques. Et notamment, elle cite les exemples à l'époque sur la physique ou les mathématiques, où c'est devenu le mode principal de diffusion de la science. Donc voilà, et il y a tout un ensemble sur le droit d'auteur aussi, et sur les excès possibles du droit d'auteur contre la notion de connaissance comme un commun. Et ça, j'y reviendrai après. Alors, elle ne cache pas, dans ce livre, qu'il y a des profondes différences entre un commun immatériel et un commun matériel. Notamment, elle dit, un commun matériel, il est soustractif. C'est-à-dire que plus vous utilisez un commun matériel, plus vous risquez de l'épuiser. Donc, il y a le rôle de la gestion en commun dont Benjamin a parlé, c'est de protéger la ressource contre la surexploitation, ce qu'on appelle la tragédie des communs. Et toutes les règles de gouvernance sont faites pour réguler l'acte de prélèvement dans la ressource. Quand vous avez un commun immatériel, vous n'avez pas ce risque. Parce qu'un logiciel, une encyclopédie, une connaissance, ne peut pas être surexploitée, si vous voulez. Par définition, la non-rivalité fait que plus vous utilisez une connaissance, plus vous lui donnez de la valeur, au contraire. Donc la gouvernance, en fait, elle vise au... Ce qui menace la connaissance, c'est l'ignorance, c'est l'oubli, et c'est la destruction éventuellement des supports, c'est pour ça que les institutions culturelles sont importantes. C'est ça, en fait, les risques des communs de la connaissance. Donc, en fait, les systèmes de gouvernance sont faits, au contraire, pour que les objets immatériels et les objets de connaissance soient le plus partagé possible et le plus connu possible. Par contre, ce qu'il faut régler, ce n'est pas le prélèvement, c'est l'ajout, en fait. C'est-à-dire que Par exemple, la science est faite comme ça. Vous ne pouvez pas ajouter un élément à la science sans que les autres scientifiques aient fait une vérification et un contrôle, parce qu'on a besoin de garantir la qualité du commun informationnel qu'est la science. Et vous allez voir que dans les logiciels et dans un commun comme Wikipédia, toute la gouvernance est faite pour contrôler comment on ajoute des éléments dans le commun, comment on ajoute des nouvelles portions de code dans un logiciel libre, comment on rajoute des informations dans un article Wikipédia. Et le but, c'est de garantir la qualité, si vous voulez, du commun informationnel. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Donc une chose que je voudrais dire, c'est que hier il y a eu des débats pour savoir est-ce qu'il y a des communs par nature. On a pas vraiment, j'ai noté Jean-Pierre Dubois qui nous parlait, il y a des communs contraints, par exemple, le fond de la mer, la haute mer, l'atmosphère, l'espace. Mais en fait, il n'y a pas de commun par nature. C'est un non-sens de dire ça, en fait. Parce qu'en fait, ce que a bien montré Elinor Ostrom, c'est qu'il n'y a pas des ressources qui seraient par nature des communs. Il n'y a de ressources communes que par institution de ces ressources sous forme de système de gouvernance visant à les protéger, en fait. C'est aussi quelque chose qu'a dit très fortement Christian Laval. On ne peut pas dire qu'il y a des ressources par nature destinées à être en commun ou pas. Et je dois vous dire aussi que ça, cette vision-là, c'est une vision profondément néolibérale. La théorie économique néolibérale n'a eu de cesse que de dire « Oui, en fait, les communs, on va les restreindre à une toute petite catégorie où il y a un échec du marché et on va empêcher au maximum que des ressources soient mises en commun en postulant que c'est soit l'État, soit le marché qui est la plus... facile. Enfin, là, donc, ils admettent peut-être que le fond des mers soit un commun, mais laissons les communs au fond des mers et n'allons pas les mettre dans la réalité de tous les jours. Donc, vous voyez, ça, c'est très important à souligner. Donc, sur cette base-là, si vous voulez, on a insisté sur... et une des choses qui a vraiment fait exploser cette question des communs de la connaissance, c'est Internet, si vous voulez. Et pourquoi ? Parce que Internet nous libère de certaines des limites intrinsèques qui existaient dans les communs matériels. Notamment, hier, on a beaucoup parlé de la question de l'échelle. Elinor Ostrom, dans les communs fonciers qu'elle utilise, enfin qu'elle étudie, en général, quand on regarde, il y a rarement plus de 100 personnes. C'est souvent des petits communs qu'elle a, parce que les 8 principes qu'elle dégage peuvent être très difficilement applicables dès que vous passez à des milliers de personnes. Notamment, elle insiste beaucoup sur le fait qu'il faut que les communautés soient bien délimitées, que les règles soient connues, etc. Et dès que vous montez en échelle, ça devient compliqué. Mais sur Internet, la question de l'échelle se pose complètement différemment. Benjamin Corrier a dit on est de suite sur un accès universel. Et l'outil Internet permet des moyens de coordination aux communautés et aux groupes humains qui leur permettent d'agir beaucoup plus efficacement à plusieurs. Donc, bon, l'exemple classique, c'est celui du logiciel libre. Vous savez, Linux, par exemple, qui est un système d'exploitation libre, qui est concurrent, si vous voulez, ou une... De ce que peut faire Microsoft, a été construit par des individus qui se sont coordonnés entre eux sans système verticalisé hiérarchique et qui ont réussi à faire quelque chose par coordination d'aussi complexe qu'un système d'exploitation informatique, ce qui est qui demande des niveaux de compétences très très pointus. Et donc, et surtout le noyau Linux, ce qu'on appelle, qui est vraiment le cœur, la plus grande valeur de ce qu'ils ont réussi à produire. Et ils n'auraient jamais pu le faire sans l'outil de coordination qu'est Internet. Wikipédia, c'est l'exemple symptomatique. On a plus des dizaines de milliers de personnes qui travaillent et qui sont capables, qui sont mis d'accord sur des règles de gouvernance et qui ont développé des systèmes de gestion des conflits. Parce que Wikipédia est un domaine très conflictuel. Les gens ne sont pas d'accord. Mais ils arrivent à trancher ces conflits. Et là, récemment, je lisais un article qui disait « Comment Wikipédia arrive à rester aussi fiable dans un monde submergé de fausses informations ?» Vous savez qu'après l'élection de Trump, on s'est rendu compte que Facebook, Twitter étaient devenus des... Voilà, toute cette histoire sur la post-vérité. Mais Wikipédia n'est pas affectée par ces... Et peu affectée par ces... Pourquoi ? Parce que c'est un commun. C'est-à-dire que les gens défendent la qualité de Wikipédia et vous ne pouvez pas introduire d'éléments dans Wikipédia si vous ne les sourcez pas sur une source vérifiable. Et ça joue beaucoup. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Je vous en donne juste un. Il y a des gens qui font ça aussi sur les données, ce qu'on appelle l'open data, et des gens notamment qui ont considéré que le fait que ce soit Google, qui est à travers Google Maps, arrive presque à un monopole de la représentation des territoires sur la Terre entière, était quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc ils ont dit, nous allons faire une alternative libre, et ça s'appelle OpenStreetMap. Et ce sont des gens qui ont fait ça de manière collaborative. Google a mis d'énormes moyens, vous savez, avec ces voitures qui circulent dans les rues. Eux, ils ont fait ça de manière collaborative en développant des applications pour téléphone où vous pouvez faire des relevés métriques Donc vous marchez dans les rues, vous dites voilà, voilà telle distance, etc. Ils ont refait une carte qui est mondiale. Et récemment, l'État français a voulu faire une base des adresses nationales. Ils se sont rendus compte que ni l'IGN ni la Poste n'avaient la base complète. Et en fait, les seuls qui avaient la base complète, c'est OpenStreetMap. Et l'État est allé demander à OpenStreetMap, et il a pu prendre ces données parce qu'elles sont libres, et les a intégrées dans sa base nationale. Donc vous voyez, en fait, ce qu'approche Internet, c'est la capacité à dépasser l'échelle, une efficacité extrêmement profonde, et un maintien des principes de démocratie, parce que la technique vous permet d'organiser la délibération à une échelle plus élevée. Donc maintenant, je vais en venir à la question de la propriété intellectuelle, parce qu'elle est cruciale. Et là, je vous parlais d'un autre livre qui a été écrit par un autre Américain qui s'appelle James Boyle, qui a écrit un livre qui s'appelle, en 2001, qui s'appelle « The Public Domain, Enclosing the Commons of the Mind ». Ça veut dire « Le domaine public, enclore les communs de l'esprit ». Et en fait, il nous dit en fait, que lui, il constate qu'il y a un deuxième mouvement d'enclosure qui s'est placé dans l'histoire. Le premier était celui qui a frappé la Terre, parce qu'on a distribué des droits de propriété exclusifs, et j'insiste bien sur le mot « exclusif » pour... reprendre ce qu'a dit Benjamin Coria, ce n'est pas le problème de distribuer des droits de propriété, c'est de le faire sous une forme exclusive qui donne à un seul acteur le contrôle global de la ressource. C'est ça, en fait, qui pose problème dans l'architecture du droit de propriété. Et il dit, nous avons assisté au XIXe siècle à une distribution de droits de propriété sur les choses de l'esprit, qui a commencé par les brevets, hein, historiquement, qui s'est étendue aux droits d'auteur, et qui concerne aussi les marques, par exemple. Et il dit, ce mouvement n'arrêtant pas de gagner en importance et en intensité, on va en arriver à une privatisation des choses de l'esprit qui empêchera de faire du commun à partir de la connaissance. Alors, cette conception elle est très importante. Alors, hier, j'ai bien entendu Jean-Pierre Dubois ou Nestor Tricard se référer, par exemple, à la Révolution française. Très, très important comme moment, parce que vous savez que c'est le moment où on a créé le droit d'auteur en France. Et il faut vraiment revenir à ce moment fondateur pour comprendre les choses. Et je pense qu'il y a énormément de mythologie sur la conception révolutionnaire du droit d'auteur. Et il est important de revenir à cette conception. Les révolutionnaires, en 1791, instaurent par la loi un droit d'auteur. Et là, vous avez une personne qui s'appelle Le Chapelier, qui est rapporteur de la loi, et qui fait un discours. Et je voudrais juste vous citer un passage. Il nous dit... La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et, si je puis dire, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain. Donc ça, c'est la phrase qu'on répète très très souvent sur Le Chapelier et le droit d'auteur, qui est toute la conception personnaliste du droit français, du droit d'auteur français, qui est bon, très, très très importante pour notre tradition. Mais cette phrase a une suite. Immédiatement, il dit « Mais cette propriété est d'un genre différent des autres propriétés ». Lorsqu'un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public qui s'en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s'en pénètre et qui en fait sa propriété. Et en fait, les révolutionnaires en fait, ont tranché le débat sur le droit d'auteur avec un système équilibré où ils concevaient que le droit d'auteur était la propriété du créateur, mais qu'il y avait aussi une propriété du public. Et comment est-ce qu'ils ont arbitré ce débat-là ? Ils l'ont arbitré avec la durée du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'ils ont dit que le droit d'auteur durera toute la vie de l'auteur plus 10 ans, c'est comme ça qu'ils l'avaient conçu, mais après, l'œuvre entrera dans ce qu'on appelle le domaine public, et là, elle deviendra réutilisable. Donc en fait, si vous voulez, on est d'emblée dans la création d'un droit d'auteur comme une propriété qui est un faisceau de droit. Et ce qu'on peut dire, c'est que les révolutionnaires ont créé le droit d'auteur comme un commun. Parce que ce qu'a dit Benjamin Coria, c'est que ce qui est problématique, c'est la propriété conçue comme un droit exclusif. On a l'article 544 du Code civil qui nous dit « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ». Le droit d'auteur n'a jamais été ça, parce qu'il a une fin. Quand vous avez une propriété matérielle sur votre voiture, vous pouvez léguer votre voiture ou votre maison, disons, vous pouvez léguer votre maison indéfiniment à tous vos descendants. Vous ne pouvez pas faire ça avec le droit d'auteur. Le droit d'auteur s'arrête au bout d'un moment. Et en plus de ça, si vous voulez, là où le droit d'auteur est particulièrement un faisceau de droit, c'est que même durant la période de protection, vous avez des mécanismes d'équilibrage qui s'appellent les exceptions au droit d'auteur. Les exceptions, c'est par exemple le droit de citation, le droit de parodie, le droit de faire des usages pédagogiques, le droit de faire certains usages en bibliothèque, le droit pour les chercheurs de déroger au droit d'auteur, etc. Ces exceptions au droit d'auteur, elles manifestent aussi l'idée que le droit d'auteur est un faisceau de droit et que le public aussi a des droits, y compris durant la période de protection. Et en fait, c'est là où on va arriver à quelque chose qui, à mon avis, concerne au premier chef la Ligue des droits de l'homme. C'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Pierre Dubois. La vraie question, c'est la question des arbitrages légitimes entre les droits des auteurs et les droits du public. Et donc, si vous voulez, c'est une question politique. C'est-à-dire qu'il faut nous reposer avec le numérique la question de cet équilibrage-là. Alors, je vais vous montrer juste un exemple visuel de cette question d'équilibrage. Juste, j'avais prévu de vous montrer cette image. Hier, je rentre de la... Je pensais à tout ça. Je vais boire un verre à la Butte aux Cailles. Et je passe devant... Alors ça, c'est pas celui de la Butte aux Cailles, mais je passe devant cette œuvre de street art qui est sur un des murs de la Butte aux Cailles. Et si vous voulez, ça, c'est juste l'exemplification de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, on a en fait un graffeur hein, qui a fait une parodie de Tintin et de l'œuvre d'Hergé, où nous voyons le capitaine Haddock qui embrasse Tintin. C'est quelque chose qui est beaucoup moins anodin qu'on ne pense. Hein, parce qu'en fait, quand les gens font ça, ils veulent interroger les stéréotypes de notre culture qui nous imposent des visions très, très rigides hein, de certains genres. Et Dieu sait que Tintin est un de ces exemples. Et donc, du coup, lui, il fait ça, en fait. Actuellement, dans notre droit, il n'y a aucun moyen que ceci soit légal. Parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est des parodies, et ceci, en fait, n'est pas une parodie. Parce qu'il n'y a pas d'intention humoristique. Donc, en fait, il n'y a pas d'exception applicable. Oui, alors franchement, je pense que, vu la manière extrêmement rigide dont les juges appliquent la notion de parodie, ils l'ont très très bien, et même la Cour de justice de l'Union des droits de l'homme a dit que l'intention humoristique était essentielle. Et moi-même, en vous montrant cette image, je viole le droit d'auteur. Et je n'ai pas de moyen de vous la montrer parce qu'il n'y a pas d'exception au droit d'auteur qui me permette de citer une image dans un cadre public comme celui-ci. Donc vous voyez, la question de l'équilibre des droits est très importante. Et je terminerai juste en disant une chose. La Cour européenne des droits de l'homme est en train de développer une jurisprudence où elle dit, en fait, qui est très très différente de la conception française du droit d'auteur, où elle dit, même dans un cas où il n'y a pas d'exception au droit d'auteur, les juges vont devoir appliquer une balance des libertés fondamentales. Donc même ici, vous voyez, en fait, là où cet artiste, là où il pourrait se sauver, c'est en fait de dire, non, mais moi, je veux exercer mon droit à la liberté d'expression. Je veux exercer mon droit à la liberté de création. Et du coup, là, ça change complètement, si vous voulez, la question de l'équilibre des droits fondamentaux. Et cette question-là, elle est très, très prégnante aujourd'hui. Je donne juste un autre exemple. Récemment, mes collègues bibliothécaires ont commencé à voir arriver des courriers de sociétés de gestion collective qui leur demandent de déclarer les lectures publiques gratuites qu'elles font dans leur mur et les heures du conte, c'est-à-dire le fait de lire des livres aux enfants. Et le raisonnement de ces sociétés de gestion collective, il est implacable. C'est de dire, c'est une représentation en public, c'est soumis au droit d'auteur, vous devez payer. Et vous demandez l'autorisation préalable. Ça veut dire que chaque fois que vous lisez un livre à un enfant, vous devez aller voir l'éditeur qui doit se retourner vers l'auteur pour lui demander, alors est-ce que ça vous gêne qu'on lise votre livre en public ? Et ces sociétés-là, en fait, vont aller jusqu'au bout. Il y a eu une rencontre récemment, et mes collègues bibliothécaires disent, ben non, nous, on ne va pas payer, ni demander l'autorisation. Et ils s'appuient sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, notamment le droit à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle. Donc, vous voyez, toutes ces questions de la culture conçue comme bien commun, elles nous renvoient au faisceau de droit, c'est-à-dire où on positionne le faisceau de droit dans une culture. Et il ne s'agit pas, et là, c'est là je reviens complètement sur Benjamin Coria, il ne s'agit pas de dénier que le droit d'auteur est un droit de propriété, il s'agit de le concevoir comme un système d'équilibre entre des droits d'égale valeur. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est que revenir à la plus pure tradition des Lumières et à la plus pure tradition, en fait, de ce qu'on a pu appeler... tout ce courant libéral qui a institué le droit d'auteur, mais qui l'avait institué d'emblée comme un système équilibré. Ce qui remet en cause cette question, c'est une vision maximaliste de la propriété intellectuelle qui tendrait à écarter toutes les exceptions. Donc moi, je suis très, très content que la Ligue des droits de l'homme, voilà, j'ai cru entendre que vous projetiez d'ouvrir un groupe de travail sur les questions de propriété intellectuelle, mais il faut que ces questions-là soient posées en termes d'équilibre des droits, si vous voulez. Parce que sinon, on va manquer quelque chose de fondamental sur ces rapports entre les communs et les choses de l'esprit. Quoi.
Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on a fait que...